Babylone. Nancy Ypsilantis.
Et Nicole Duparc. Bonjour et bienvenue à Babylone. Je vous le dis, mais surtout, ne le répétez pas. C'est secret. Top.
Souvent, les gens se disent, à partir de quel moment est-ce que les secrets, qui sont plutôt une bonne chose, vont devenir quelque chose de catastrophique, quelque chose qui peut faire du mal, même sur plusieurs générations.
Ils m'en ont toujours tenu éloigné, comme d'un secret honteux.
Oh, ça, je peux pas vous dire, hein, ça c'est secret, hey, ça c'était la diplomatie, hein.
Celui à qui vous dites votre secret devient maître de votre liberté.
Le calvaire se poursuit pour Christa Marwalder, soupçonnée d'avoir trahi le secret de commission.
Ce que j'aimerais, c'est avoir un endroit rien qu'à moi, une sorte de jardin secret.
Je pratique, si j'ose dire, le secret de la confession, puisque j'entends, je suis tenu, bien entendu, à ne jamais divulguer quoi que ce soit de ce que j'entends.
À ceux qui attaquent le secret bancaire suisse, je dis, vous vous casserez les dents.
Il était une fois, comme dans les contes, il était aussi une fois, comme dans les comptes bancaires, le secret fiscal, le vote à bulletin secret ou encore le secret de famille. Bref, alors que la transparence fait son grand retour, le secret n'a pas fini de secréter à tout vent. Il souffle sur le musée d'ethnographie de Neuchâtel avec une exposition secret, disséminé dans 15 lieux discrets de la ville de Neuchâtel, Nicole Duparc.
Oui, il faut jouer les espions pour découvrir cette exposition placée, vous l'avez dit, sous le sceau du secret. Et pour le journaliste, aucune révélation, nada, rien à se mettre sous la dent qui ressemblerait de près ou de loin à un dossier de presse gracieusement fourni pour accéder au code magique pour dévoiler l'énigme de secret. Non, il faut payer de sa personne, il faut donc se rendre sur le terrain pour mener en vrai cette chasse au secret, ce que j'ai fait en compagnie de Yann Laville. Se dévoile aussi au fil de la marche une cartographie autre, on va dire comme ça, de la ville de Neuchâtel. Mais à ce stade, vous le comprendrez aisément, nous n'en dirons pas plus. Juste encore un mot pour dire que Secret, c'est aussi le dernier volet de la trilogie organisée par le musée d'ethnographie de Neuchâtel autour du patrimoine culturel immatériel après Bruit et Hors-Champ.
Marc-Olivier Gonzette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Secret vient couronner cette trilogie. C'était presque aujourd'hui une nécessité d'ethnologue.
C'était en tout cas le troisième volet d'une réflexion sur le patrimoine culturel immatériel qu'on a voulu, en fait, mon collègue Mayor et moi, déjà il y a à peu près 5 ans, on avait formulé l'idée de partir dans cette direction et puis entrer dans cette dynamique bruit hors champ. Eh bien, nous avons fixé le troisième volet comme celui-là, autour du secret, l'immatérialité par excellence, puisqu'on n'a même plus le droit de dire ce qu'on ne voit pas.
Alors que tout le monde revendique aujourd'hui sa vie secrète, son jardin secret, comme on vient de l'entendre.
Alors, comme vous l'avez dit, il y a une tension forte entre révélé et caché, et que chacun d'entre nous vit à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et nous, ce qui nous a intéressé dans ce thème, c'est sa faculté, en fait, extrême de communication et de mise en relation des humains, et non pas son côté, je dirais, apparemment sombre, qui pourrait casser ces dynamiques. Non, c'est un puissant agent de communication.
Aujourd'hui, en Suisse, quand on parle du secret bancaire, c'est digne du Cervin.
Alors oui, c'est la face émergée de l'iceberg. La question que mes collègues se posaient, c'est comment est-ce que ce secret bancaire, qui soi-disant a disparu, va se recomposer autrement. Mes collègues subodorent un retour du bad land sur la scène internationale.
Quoi qu'il en soit, le secret sécrète toujours.
Alors c'est sa priorité, c'est qu'il va toujours de son détenteur vers des dépositaires qui sont toujours plus nombreux et qui finalement amènent gentiment l'information aux oreilles de son destinataire, puisque le destinataire du secret, c'est celui à qui on peut cacher les choses.
Par définition, le secret ne peut pas rester secret, sinon c'est un très très bon secret.
Alors, par définition, certains restent très longtemps secrets et permettent finalement, dans une certaine mesure, de continuer l'énigme, même à travers les générations, mais la plupart sont éventés.
Donc, on peut dire que le destin du secret, c'est de devenir un secret de Polichinelle, d'une certaine manière.
Polichinelle est peut-être la meilleure figure pour parler du secret.
Mais Marc-Olivier Gonzette, l'ethnologue, à sa façon, c'est aussi un découvreur de secrets.
Alors oui, parce que toute réalité sociale finalement demande à être pénétrée, demande à être comprise, et puis nous éprouvons tous cette sensation d'être à la fois dedans et dehors les choses. Et l'ethnologue en fait c'est quelqu'un qui par définition doit percer, doit entrer, doit essayer de comprendre ce qu'on cherche finalement à lui cacher.
Et dedans, dehors, c'est ce que vous avez fait avec cette exposition.
Alors, dedans, dehors, c'est aussi ce qu'on a fait lors de notre nuit des musées, puisqu'on avait, en fait, savamment travaillé la communication. On n'avait pas tout dit. Et une partie des gens se sont retrouvés comprendre parce qu'ils étaient dans le secret. Et une autre partie était, je dirais, quasiment fâchée parce qu'ils ne s'étaient pas donné les moyens d'entrer dans cette congrégation. Et ben, ils n'ont pas eu accès aux portes closes.
Mais, quand je disais dedans, dehors, c'est aussi une figure tout à fait incarnée puisque l'exposition est dans le musée et hors mur.
Alors ça, c'est le côté circonstanciel. Notre musée est en voie de restauration. Oui. Et puis, il était prévu que notre salle d'exposition soit pas disponible. Donc, on avait prévu de longue date d'intervenir en ville de Neuchâtel. Oui.
Comme ça tombait bien. Nicole Duparc, vous vous êtes promenée dans ces secrets.
Ah ben évidemment, peut-être deux mots pour commencer la règle du jeu. Hein.
Oui.
Donc le parcours, il commence soit à l'Office du Tourisme, mais on peut également débuter au musée d'ethnographie, donc en travaux, comme vous venez de le rappeler, Marc-Olivier Gonzet. À ces deux points d'entrée, ben, on se voit remettre un jeu de cartes, hein, je vous l'ai amené, donc comme ça en forme un petit peu de jeu de tarot, 15 cartes, qui vont permettre de s'orienter et donner des indices aux visiteurs pour découvrir donc les différents sites. Je parle sous votre surveillance, Marc-Olivier Gonzet. Alors, au hasard, un exemple, cette carte qui m'indique, par exemple, que le lieu est proche du quai Philippe Godet. Voici l'indice. Écoute, entre, cherche les signes et descend l'escalier métallique pour trouver du repos. Ou encore, sur une autre carte, va vers le kiosque, là au milieu, et cherche son double. Code, c'est 2468Z. Voilà. Donc sur chaque site, il faut rassembler ces indices-là et ensuite composter à chaque fois la carte. Sinon, vous l'avez dit, impossible d'aller plus loin. Hein,
Marc-Olivier Gonzet, c'est ça. Je vois les cartes que vous avez compostées.
Absolument, oui, on est bloqué si on ne réalise pas le parcours dans son ordre prévu.
Voilà. Alors avec Yann Laville, on m'a servi de guide initiatique pour cette petite balade secrète. Alors je vous donne cette fois l'indice pour vous rendre sur le premier site qu'on a visité. Donc un indice en forme toujours de haïku, on l'a compris. Sous terre, 10 panneaux et une vitrine s'offrent à toi. Alors jusque-là, tout va bien. Mais une fois sur place, vous allez l'entendre, drôle de surprise, une drôle de surprise qui nous attendait, puisque les 10 panneaux d'affichage avaient tous été, on peut le dire, vandalisés, malmenés, lacérés. Comme quoi, on s'expose à des risques quand on expose ses secrets.
Yann Laville, vous m'emmenez où ?
Alors, je vous emmène dans un lieu que je ne suis pas habilité à révéler.
Selon la formule.
Selon la formule, donc il reste secret, c'est aux visiteurs de le découvrir.
Peut-être qu'on peut quand même donner un indice.
On peut donner un indice, on est sous terre et face au lac. Je n'en dirai pas plus.
Alors là, un événement inattendu, Yann Laville, tout de suite, puisqu'il y a une série d'affiches que vous avez posées et qui ont apparemment été un peu massacrées.
Alors manifestement, de la nuit d'hier à aujourd'hui, notre installation n'a pas dû plaire à tout le monde. Et donc, je ne sais pas s'il faut le prendre comme un hommage à notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes se sont senties visées par l'approche ou les révélations qu'on pouvait faire sur la notion de secret. En tout cas, ils les ont entièrement déchirées. Là, on est dans une zone en fait, qui aborde les paradoxes du secret, notamment la phrase qu'on a choisie comme accroche, régulièrement décrit ou contesté lorsqu'il s'agit du secret des autres. Il est aussi jalousement protégé et valorisé lorsqu'il s'agit du secret des siens. Et donc là, l'idée, c'était de faire référence à ce grand paradoxe de notre temps et de notre société. C'est-à-dire que le secret n'a jamais été aussi valorisé. On veut protéger la sphère intime, on veut protéger la vie privée, on veut protéger les données des usagers sur Internet, des utilisateurs de cartes de crédit. Et puis en même temps, il n'a jamais été aussi conspué. Donc il y a une sorte de logique de la transparence qui s'est mise en place, où en fait, on se méfie des États, des banques, des multinationales. Et en fait, on leur fait régulièrement des injonctions à plus de transparence, à une gestion plus démocratique du pouvoir et de l'argent. Donc notre secret est bon, celui des autres est systématiquement mauvais.
Voilà. Mais alors, les affiches, on va s'approcher quand même de ces affiches qui ont été lacérées. Et là, alors, on aperçoit juste peut-être dessiné quelqu'un qui ressemblerait à Snowden.
Edward Snowden, c'est bien lui, donc traité sur un mode graphique qui rappelle ces street artists qu'on connaît sous le nom de Obey, et qui enjoint les gens un peu sur le mode « I want you to join the US Army » à « blow the whistle », donc sonner l'alarme. Référence à cette logique de la transparence qui s'est mise en place dans les entreprises, avec Julian Assange, avec Edward Snowden et quelques autres qui ont défrayé la chronique ces dernières années. Et cette injonction morale d'observer, ou quand on observe quelque chose qui ne semble pas tourner rond dans la boîte pour laquelle on travaille, de, je dirais, faire éclater le scandale et de forcer ses employeurs à se justifier sur la place publique.
Alors, pour le visiteur, lorsqu'il arrive ici, donc il a une carte entre les mains, il a un certain nombre d'indices, peut-être, quels sont les indices qu'il a ici, par exemple ?
C'est une double carte, hein. C'est une carte à jouer, sur laquelle il y a une carte de Neuchâtel, qu'ils vont composter. Ils obtiennent un trou qui situe un bâtiment ou un lieu dans l'espace public de Neuchâtel. Et sur la même carte, il y a un indice, en l'occurrence, qui dit « Alors que tu te diriges vers le lac, 10 panneaux et une vitrine s'offrent à toi » qui doit permettre aux gens de savoir où s'orienter pour découvrir l'installation.
Alors là, il faudra qu'ils fassent preuve de beaucoup d'imagination pour décrypter ces affiches lacérées.
Alors on va les remplacer, et effectivement, si on ne peut pas jouer la littéralité de l'espace public, on sera obligé de les vitrinifier, c'est une possibilité parmi d'autres qui s'offre au musée. Ce n'était pas notre souhait à la base, mais ma foi, s'il n'y a pas d'autre solution, on sera obligé d'y recourir.
Alors face aux affiches, on se retrouve face à une petite vitrine avec une maison en plan de coupe, on va dire, et des personnages.
Alors une sorte de maison de poupée qu'on avait imaginé à la base comme une espèce de terrier, une sorte de monde protégé, clos, heureux. L'idée de base, c'est un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Et d'explorer un peu le fait que, malgré ces grandes injonctions avec lesquelles tout le monde est d'accord, transparence de la politique, transparence de l'économie, transparence médicale, pour en tout cas les gens qui nous dirigent, hein, on ne veut plus de François Mitterrand qui dirige la France en ayant un cancer, finalement les gens font à peu près tout le contraire dans leur intimité. Donc on a typiquement une femme de ménage employée au noir qui repasse le linge de son employeur sur le code civil, on a un chef d'entreprise qui efface les données de son ordinateur avant de partir en vacances aux îles Caïmans. On a une famille qui...
Ça peut servir, effectivement.
Ça peut servir, hein, qui, au lieu de faire du sport, comme c'est la mode à l'heure actuelle, et de cuisiner biologique et végétarien, maman boit, papa fume et le fiston s'abîme les yeux en jouant sur des consoles vidéo. On a un peu les trois sagesses, donc ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, rejouer sur le mode des publicités secrètes autour du fromage à Appenzeller, avec un petit champ de cannabis qui pousse derrière. On a un grand brûlé qui appelle en catastrophe un guérisseur, donc un faiseur de secrets selon la terminologie qui est utilisée en Suisse romande à l'heure actuelle. On a une bonne mère de famille qui lave son linge sale loin des regards inopportuns.
En famille.
En famille, bien entendu. Et puis on a toujours en fait ces renvois à la muséologie. Donc on avait une affiche qui traitait du code des déontologies de l'ICOM. On se part de grands principes. On ne va pas exposer certaines pièces, on ne va pas les acheter parce qu'elles sont acquises de manière illégale, on ne veut pas encourager ce genre d'agissement. Et puis là, on a le collectionneur dans son intérieur, entouré de pièces, qui jouit pour lui tout seul de ses trésors et qui pose un peu toutes ces questions du marché gris, du monde de l'art, en fait, dont on sait très bien que malgré tous les beaux principes, en fait, on continue de les acheter et de les vendre.
On continue, on va où ?
Dans un autre lieu secret,
un indice.
Un peu éloigné. Ouais. Un indice, c'est un lieu qui est très fortement lié à la notion de médias et de communication.
Alors, entrée interdite, bien sûr.
Pas pour nos visiteurs, donc eux auront accès au code.
Donc le code se trouve sur la carte.
Le code se trouve sur la carte, tout à fait. Donc c'est l'indice qui est donné en plus.
On est dans un lieu clos, confiné, avec une... paroi de titres de journaux.
Journaux et magazines pour évoquer ce qui peut sembler une évidence, à savoir que le secret est un formidable moteur d'économie populaire. Il crée du désir, il crée de l'envie. Il crée du spectaculaire, il crée de la révélation. C'est un peu le syndrome du scoop, hein, qui est mobilisé, attire l'arigot par les titres de presse quotidienne ou magazine. Qu'on parle du secret du bonheur, des secrets de la mémoire, des secrets de la bonne alimentation, des secrets de comment éduquer ses enfants.
Aussi Neuchâtel, secret coquin et insolite, par exemple, en couverture de l'Hebdo.
Ils ont fait ça pour à peu près toutes les villes de Suisse romande. Donc, on a aussi Fribourg, Genève, Lausanne, secret coquin et insolite. Mais manifestement, c'est un bon filon.
Les secrets des boîtes qui réussissent. Grèce, Europe, l'histoire secrète d'un bras de fer. Meurtre énigmatique dans le milieu de l'art, les secrets du tournage. Drone, la guerre secrète d'Obama. Berne, lâche du lest sur le secret bancaire. Donc, même si on révèle de plus en plus de pseudo-secrets, la perception, c'est toujours... En tout cas, ça fonctionne toujours sur « on nous cache tout, on nous dit rien ».
Ça fonctionne sur le « toujours on nous cache tout, on nous dit rien ». Et je dirais qu'en fait, il y a un processus d'auto-alimentation. Donc en fait, à partir du moment où on a instillé le doute dans l'esprit des gens, l'administration de preuves ne sert à rien. On peut bien dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres, qu'il n'y a pas de complot, que les entrepreneurs ne sont pas tous des méchants qui détournent leur argent et qui vont le cacher aux îles Caïmans. Le secret se réénonce toujours sous d'autres formes et le doute, en fait, prend les démonstrations du contraire comme des arguments supplémentaires du grand complot qui vise à masquer des choses.
Le secret se nourrit du secret.
Le secret est exponentiel, exactement. Et beaucoup d'auteurs ont montré que des scientifiques, des intellectuels s'étaient cassés les dents à essayer de le déconstruire. Donc, toutes les preuves qu'ils ont administrées ont été reprises à compte d'auteurs par les tenants du secret pour montrer qu'effectivement, ils étaient à la solde des faiseurs de secrets pour essayer de détourner l'attention publique des vrais problèmes.
On va dire qu'on est dans un lieu souterrain, dans une sorte de cave.
Il y a beaucoup de lieux souterrains. Donc c'est une occasion de découvrir Neuchâtel un petit peu insolite, hein, ces monuments historiques, les abords de la collégiale. Mm-hmm. Et cette salle qui est magnifique, ancienne, mais qui a aussi quelque chose un peu de caché, de secret, de peu visible.
Au fond d'un petit couloir. Là.
Au fond d'un petit couloir. Bon, je dis secret. Les artistes de Neuchâtel l'utilisent régulièrement, mais le grand public n'a pas souvent la chance de l'avoir en activité.
Et alors, on ouvre la porte et là, hop, on est accueilli par une paroi de masques et un texte où donc il est marqué « S'il contribue à brouiller les cartes et les rapports de force, trois petits points ».
Alors, le secret contribue à brouiller les cartes et les rapports de force. Et en fait, on a cette espèce de mur qui évoque le carnaval dans toute sa splendeur, dans les différentes régions de Suisse. On a du masque commercial qui vient du Gros de Vaud. On a du masque de Suisse centrale. On a du masque du Lechental. Et qui disent très exactement ce que dit la phrase. Donc, en fait, ces jeux de dérision, ces jeux de contestation, on va se moquer des puissants, voire même on va se venger d'eux, en tout cas pendant un jour durant l'année. Et donc, il s'agit du premier volet de la visite. Le spectateur va arriver ici. Il est dans un cul-de-sac. Il est ensuite invité à composter la carte pour découvrir le lieu suivant, qui, par un heureux hasard, se trouve être juste à l'étage.
OK.
Et à l'étage, il se trouve confronté à un simple tableau qui va lui dire, en fait, quelque chose t'a échappé dans la première salle. Il y a, en fait, un artifice, je dirais, de conte de fées, un artifice de dessin animé pour enfants. Mm-hmm. Il faut appuyer sur un masque pour faire apparaître le passage secret.
Mm-hmm. Ah, bon. Oups là, alors ça, c'est trop tard, la porte se referme déjà, donc il va falloir... à nouveau actionner la tête de ce petit personnage.
Elle va les grandes voleurs, hein. il faut entrer juste et ressortir juste.
Ok, cette fois c'est bon, j'espère qu'on ne va pas rester là enfermé. Alors là, on est dans un autre espace, disons manif reconstitué.
Donc en fait, vous vous rappelez la précédente phrase, on parlait du secret, du travestissement d'identité comme servant à brouiller les cartes et les rapports de force. Mais, et c'est la fin de la phrase, il participe surtout au maintien d'un ordre du monde. Et donc en fait, on reprend l'idée du masque pour montrer que derrière le travestissement d'identité, en fait, il y a deux possibilités. Un qui va dans le sens de la contestation, l'autre dans le sens de réaffirmer le pouvoir, avec ces masques de l'Empire impérial de Star Wars, enfin, qui disent en fait une forme de fascisme rampant, les troupes de choc. Et puis, peut-être plus proche de nous, ces cagoules destinées à travestir l'identité qui sont utilisées autant par les joueurs de paintball que par les agents du GIGN ou de troupes d'intervention de choc, que par des terroristes qui massacrent des gens dans des supermarchés cachers en banlieue parisienne. Donc vraiment avec quelque chose de très métronomique, de très simplifié au niveau des couleurs. On a le blanc et le noir et vraiment un ordre au cordeau avec... une référence, je dirais, à une œuvre de fiction et une référence à quelque chose qui est de l'ordre de la réalité quotidienne. Amusant d'ailleurs, puisqu'en fait, ces cagoules sont considérées comme étant du matériel de guerre. Donc en fait, pour se les faire livrer, il a fallu qu'on trouve une adresse en France. Oui. C'était juste après.
L'armée suisse ne pouvait pas vous livrer là, c'était...
Alors, on voulait un modèle particulier. À plus forte raison, c'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. C'était devenu extrêmement compliqué d'obtenir ce genre d'outils de dissimulation de l'identité.
Alors là, on va dire un parking quand même, on peut le dire.
L'un des nombreux parkings de Neuchâtel. Voilà. Peut-être, disons-le de cette manière-là.
Grand parking.
Très grand parking.
Et là, une voiture. Alors bon, les travaux sont encore en cours, hein, puisque c'est la dernière ligne droite avant le vernissage de cette exposition hors mur. Et un minibus avec affiché derrière cette phrase. Il structure aussi bien la vie publique que la vie privée.
Exactement. Donc en fait, voilà, on travaille un peu sur les règles du secret, les déplacements de frontières et les moments problématiques où la frontière se déplace. Et en fait, on évoque la figure du paparazzi. Donc en fait, on avait envie de scénographier l'exposition dans un minibus dans lequel les gens se planquent dans l'attente que leur proie se dévoile et attendent le moment opportun pour sortir les téléobjectifs et les mitrailler sous toutes les coutures.
On ouvre la porte arrière du véhicule, et puis là, une série de petites photos de célébrités.
Alors, on est dans une exposition photo dédiée à l'esthétique paparazzi. Ce qui est assez intéressant de rappeler, c'est qu'en fait, cette esthétique associée à la presse people, au caniveau, au vulgaire, au mauvais goût, a fait récemment l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou de Metz, donc en fait a accédé au pinacle de l'art contemporain, où on se rend compte, avec 50 ans de décalage, qu'il y a malgré tout une esthétique, qu'il y a certains codes, qu'il y a certaines relations, et qu'en fait, cette production iconographique est un moyen d'analyse assez intéressant pour comprendre la société à mesure qu'on en sort. Il y a des gens qui sont convaincus qu'on est sorti du star system, qu'il n'y a plus de célébrité comme à l'époque, et on en vient presque à regretter ces en guillemets fouilles merde, ces gens qui ont en fait traumatisé aussi de nombreuses stars, qui ont révélé tous leurs égarements. Et donc on revient un petit peu sur les catégories emblématiques de ce qui est photographié par les paparazzi quand ils ne s'intéressent pas au glamour, quand on n'a pas la belle robe de soirée pour monter les marches à Cannes. Donc finalement, une version très moraliste et très ambiguë de la gloire, des fêtes alcoolisées ou droguées qui montrent un visage assez triste de ce qu'implique en fait toute cette pression médiatique.
Johnny, par exemple.
Johnny, il n'a pas l'air très en forme au festival de Coachella, mais ce n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont quasiment bâti leur carrière sur ce genre de fresque. Lindsay Lohan est un bon exemple. Vous avez en fait le maraudage d'images liées à la vie intime, donc les nouvelles relations, les coucheries, les maîtresses, François Hollande qui sort de chez Julie Gayet. On a des photos liées à la mort, donc de Michael Jackson à Elvis Presley en passant par François Mitterrand. Donc on va jusque dans les dernières minutes, les derniers moments d'intimité avec la famille, encore voler quelques images. L'image d'Elvis est extrêmement intéressante parce que, de nouveau, elle rejoint cette logique du complot. Loin d'attester de la mort du King, hein, c'est la photo qui a fait naître tous les délires sur en fait, l'idée que sa mort avait été mise en scène, que le menton et le nez ne correspondraient pas du tout et qu'en fait, il vit heureux quelque part sur l'île d'Hawaï encore à l'heure actuelle.
Voilà, donc on rejoint les théories complotistes. Tout est lié.
On a effectivement ces moments de débordement aussi où les stars n'en peuvent plus de subir ces gens qui par ailleurs sont extrêmement importants pour asseoir leur image de marque et attaquent les paparazzi, leur font des doigts d'honneur, leur font des clés de bras, leur donnent des coups de pied. Le dernier en date, c'est Kanye West qui a beaucoup défrayé la chronique ces derniers mois. Et puis cette tendance à déifier les stars, puis en même temps à les ramener plus bas que terre, en allant les photographier au petit matin, pas coiffés, pas maquillés, pour simplement montrer qu'en fait il s'agit de mortels, aussi moches que monsieur et madame tout le monde quand ils ne sont pas vraiment apprêtés. Un exemple qui me fait beaucoup rire, c'est celui de Brian Molko, le chanteur du groupe Placebo, qui en fait avait fait un procès au photographe et au journal Voici, qui avait publié cette image, qui est par ailleurs assez banale.
Donc voilà, donc on le voit en train de se balader avec sa compagne et puis voilà leur enfant.
Et donc lui, il avait attaqué Voici en disant que cette image portait atteinte à son image d'artiste tourmenté et bisexuel. Et donc effectivement que ça mettait un frein à sa carrière. Et il a été débouté devant les tribunaux en disant qu'effectivement on ne pouvait pas accuser les journalistes de faire leur travail, surtout quand la réalité n'avait pas l'air extrêmement provocante, en tout cas selon les canons de morale en vigueur.
Undercover surveillance. Là, on va se planquer en cabine. Voilà, donc là, on rentre dans la petite cabine. Alors ici, Yann Laville, dans la cabine du camion, c'est l'empire du selfie.
C'est l'empire du selfie. Donc on a assisté, depuis la banalisation des smartphones, à une espèce de tempête d'images tous azimuts où les gens mettent en scène leur vie quotidienne. Donc tout ce qu'elle a d'exubérant, mais aussi de tout ce qu'elle a de banal, qui constitue en fait un sujet de fascination pour de nombreux ethnologues. Donc en fait, on a 11 panneaux qui détaillent en fait 11 types paradigmatiques de selfie. Donc mettre en scène sa vie intime. Il y a des mères à l'heure actuelle qui choisissent de mettre à la portée de tout le monde ce qui relève a priori de la relation intime par excellence et celle avec son enfant. Donc, est-ce une nouvelle manière d'assumer sa féminité? Est-ce une nouvelle forme de voyeurisme? On n'a pas de réponse définitive à cette question, mais c'est assez intriguant de voir cette rage d'imposer son bonheur, sa vie familiale, son sein qu'on cache habituellement au commun des mortels.
Alors c'est vrai que quand on voit comme ça cette petite cabine de cette camionnette tapissée de tous ces selfies, c'est un peu anxiogène quasiment.
Alors c'était l'effet voulu, mais en même temps on amène des clés de compréhension. On montre que finalement certaines de ces images reprennent des codes relativement anciens. C'est la photo de famille. C'est en fait, si vous avez tenté toute votre vie d'échapper aux soirées diapositives, elles viennent à vous maintenant, elles vous agressent via Facebook, via des invitations diverses et variées. Vous avez effectivement la vie festive ou intime des adolescents qui fascinent depuis toujours, avec des références à la sexualité. Donc en fait, ce qu'on appelle le nudie, une image appelée à circuler entre très peu de gens, dont la révélation sur la place publique peut avoir des conséquences dramatiques. L'affaire Gary Muller est là pour le rappeler. Également, la secrétaire exhibitionniste du Palais fédéral qui a été renvoyée, puisqu'on avait l'impression qu'elle passait son temps de travail à faire des photos d'elle un peu courvêtues. Et puis, en fait, autour de cette esthétique, toute une série de défis qui s'organisent, donc notamment ce qu'on appelle le under boobs, donc dévoiler le galbe de ses seins, directement émulé par des garçons qui répondent par le under balls, donc c'est montrer ses testicules qui pendouillent sur un bord du slip ou du caleçon.
Donc c'est très codifié.
Alors c'est extrêmement codifié. On a aussi un exemple autour des poses paradigmatiques, donc ce qu'on appelle le duck face, la bouche en cul de poule, la langue tirée façon Miley Cyrus. Enfin, on n'a pas attendu Miley Cyrus pour tirer la langue, mais il y a une mode qui s'est relancée sur cette base-là. Et puis tous ces signes plus ou moins cabalistiques liés aux gangs américains qu'on connaît à travers l'esthétique du rap, mais qui sont quasiment devenus la règle pour être photographié dans un club, par exemple, et montrer qu'on fait la fête. Les gens posent quasiment systématiquement dans la même attitude. Et accessoirement, ce qui était de l'ordre du selfie et de l'attitude spontanée, en fait, bascule vers un registre d'image extrêmement codifié et professionnel.
Donc par rapport au secret, tout ça est bien lisse.
Tout cela est bien lisse. En même temps, il y a différents cas de figure. Il y a des cas qui agitent vraiment le landerneau de la médiasphère, qui posent des questions essentielles, notamment cette bande ici, où on évoque toute une série de selfies qui sont pris dans des situations jugées moralement réprouvables. Selfie dans un lieu de mémoire, à Auschwitz, la jeune fille qui sourit, ça a été jugé comme un scandale par les associations de défense de la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il y a eu un débat dans les médias autour de gens qui s'étaient pris en photo sur des sites d'accidents, avec les pompiers qui interviennent, il y a encore la fumée noire qui fume derrière. Avec cette idée, mais que font ces imbéciles-là? Ils empêchent le travail des pompiers, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on profite du malheur des autres pour faire une photo qui met un individu en valeur. Photo prise dans le cadre de funérailles, donc là on a un jeune homme qui doit enterrer, je ne sais pas, sa grand-tante ou sa grand-mère, mais qu'on profite pour faire un petit clin d'œil à ses amis. Est-ce dramatique? Est-ce devenu une attitude normale? On prend des photos pour tout et n'importe quoi, donc pourquoi dans ce genre de situation ça prendrait un sens particulier? Une fois de plus, on n'est pas moralisateur, mais en fait on soumet à l'attention du visiteur un certain nombre de cas où les limites posent problème et où un débat de société fondamental s'engage autour de cette notion de l'intimité, de la sphère, de ce qu'on peut révéler ou pas, de ce qui doit être révélé, de ce qui doit être conservé dans le registre du secret.
Merci à Yann Laville, conservateur adjoint au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Initiation top secrète. Secret, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 18 octobre. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. And so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky up above. Zing boom, it's caving in. Wow, bam! You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing boom, the devil cuts loose, zing boom, so what's the use? Wham, bam, falling in love.
Well, you almost have a fit. This guy is George and I got hit. There's no mistake, 'cause this is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham! I've fallen in love. The sky caves in, the devil cuts loose, you blow, 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 blow your fuse. Ah! When you're falling in love.
It's so, so quiet, c'était Betty Hutton, fin des années 60, titre repris par Björk, mais franchement, la version originale, elle est pas mal du tout. À l'occasion de l'exposition Secret qui se dévoile en ville de Neuchâtel jusqu'au 18 octobre, Babylone pratique le bouche à oreille en toute confidentialité en compagnie de Marc-Olivier Gonzette, directeur du MEN. Alors Marc-Olivier Gonzette, on l'a entendu, cette exposition est plutôt physique, il faut avoir la forme pour aller la découvrir. Les secrets obéissent à une loi, à des lois. Quelles sont ces lois du secret ?
Alors, la loi essentielle qu'on essaye de développer dans notre expo, c'est que le secret sécrète, c'est-à-dire qu'il est là pour circuler entre ses dépositaires et arriver à son destinataire. Il est là pour informer finalement de choses discrètes, de choses secrètes, de choses qu'on ne peut pas assumer devant tout le monde. Chaque profession a ses codes, a ses règles. Et finalement, on sait très bien qu'il faut à un certain moment arrêter d'essayer de savoir, parce que ces gens ont le droit de garder un certain nombre d'informations pour eux.
Un métier, c'est faiseur de secrets, néanmoins.
Alors, un métier où, effectivement, on constitue nos secrets et ça nous aide à vivre, parce qu'une situation de transparence... à la fois dans le monde professionnel, mais également dans le monde individuel et personnel, c'est intolérable. Il faut laisser une part d'opacité, une part d'ombre. qui permet justement de respirer. Et c'est là peut-être que cette logique de la transparence prise à la lettre devient absurde et mortifère par rapport à... Et c'est là aussi que pour nous, le secret est un patrimoine culturel immatériel à protéger, même si finalement, il n'a pas tellement besoin de notre protection pour continuer à végéter tout seul.
Juste pour revenir sur cette notion de faiseur de secret, donc qui suppose que le secret relève d'une fabrication, donc ça veut dire de quelque chose qui est transmissible, d'un savoir-faire transmissible.
Ça relève même de ce qu'on pourrait appeler une initiation, et ça c'est très présent dans les sociétés dont s'occupe l'ethnographie. Il y a des cérémonies qui sont ouvertes qu'à une catégorie particulière de la population, et vous êtes différent quand vous les avez accomplies, et ensuite vous êtes tenu à ne pas révéler, même si vous n'avez rien appris, même s'il n'y a rien sous le masque. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien sous le masque.
C'est ce que l'ethnologue, je crois, franco-hongrois András Zemplénik, que vous allez d'ailleurs inviter, appelle le savoir-taire. C'est une expression très parlante.
C'est ça. D'ailleurs, on demande à nos visiteurs de signer, quand ils entrent à l'Office du tourisme ou chez nous, une charte de confidentialité. Parce qu'il faut qu'ils vivent cette expérience de l'engagement, à la fois du savoir-taire. Et puis évidemment, la loi du secret, c'est qu'ils vont quand même parler.
Le secret est culturel aussi ?
Il est présent dans toutes les sociétés et par essence, comme il est de l'ordre de la communication, il est culturel, bien sûr. Et ça peut même poser des problèmes dans les rapports entre les groupes, puisque à un certain moment, une information, par exemple dans le cas de peinture aborigène australienne, ces informations qui sont données par des peintures ne sont accessibles qu'à ceux qui les ont faites et par exemple sont interdites aux femmes qui ont d'autres types de secrets à protéger. Alors quand vous imaginez une exposition dans laquelle vous devez poser des peintures et dire que certaines femmes aborigènes ne sont pas acceptées dans ces salles, vous posez un vrai problème entre la société en question, dont on respecte le code, et la société occidentale qui ne tolère plus ces inégalités.
Donc il y a des choses que vous n'avez pas exposé.
Alors, dans notre cas, le problème ne s'est pas posé. Nous explicitons en fait la dynamique du secret. Mais l'allusion que je faisais, c'est une exposition qui a eu lieu à Paris, au Quai Branly, par une personne qui nous a prêté d'ailleurs une œuvre pour cette exposition, enfin prêté l'image d'une œuvre et qui l'a interprétée. Et cette exposition a fait scandale parce qu'effectivement, il y avait des limitations de visite. Mais c'est le cas de certains objets ethnographiques. Il y a certaines pierres qu'on ne peut pas montrer parce qu'effectivement, il y a des restrictions de vision.
Ou des choses qu'on ne peut pas montrer aux enfants.
Aussi.
Le secret, Marc-Olivier Gonzette, c'est aussi quelque chose d'hautement politique. Hein. Il est à la base de la démocratie, on l'a dit, on vote à bulletin secret. Et puis c'est le carburant aussi des tyrannies, hein, des régimes autoritaires. Lorsque le secret d'État dévore tout et cadenasse toute liberté. Donc que nous dit ce paradoxe, au fond, qui montre le rôle central du secret, quel que soit le régime politique?
Oui, ça nous dit surtout que le secret n'est ni bon ni mauvais en soi, mais qu'il peut être utilisé à des fins extrêmement sombres et à des fins finalement plutôt lumineuses. Donc il ne faut pas moraliser notre rapport au secret en général, puisqu'il n'a pas en lui-même cette propension au mal ou au bien. C'est la même chose pour la transparence. Il n'y a aucune raison que cette volonté de faire la clarté et la lumière soit systématiquement intelligente, juste et créative. Non, par moment, c'est idiot.
Donc le secret, faut en débattre.
Il faut en débattre.
Pour délimiter son périmètre qui change.
C'est lui-même, je dirais, qui finalement structure aussi les rapports dans lesquels nous sommes. C'est lui-même qui structure le politique, c'est lui-même qui structure le professionnel et même l'individuel.
Mais c'est quelque chose qui a changé parce que le secret, me semble-t-il, auparavant, il fallait le protéger, le choyer. Or, c'est plus du tout le cas.
Alors, chaque génération, chaque période réinvente un rapport particulier. Là, à mon avis, on met en scène, plutôt qu'on ne réalise, cette espèce de glorification de la transparence. Mais en réalité, en coulisses, le secret se recompose quand même d'une manière tout à fait efficace.
Parce que si on prend l'exemple des selfies, alors on était avec Yann Laville plonqué dans ce minibus façon paparazzi et tapissé de selfies. On prend Twitter, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tout ça révolutionne les règles, on va le dire comme ça, du secret? Est-ce que les réseaux sociaux sont carrément en train de tuer le secret à petits coups de clics et de likes?
Moi, j'ai pas l'impression que ça le tue. En revanche, ça trouble le rapport qu'un individu moyen, on va dire, entre ce qui est privé et ce qui est public. C'est-à-dire qu'il a l'impression, à l'intérieur de son cercle d'amis sur Facebook, ou quand il tweet, qu'il reste dans la sphère privée et se rend pas compte qu'en fait, il est en train de partir dans une logique planétaire. Donc, on est, avec les outils de communication qu'on a aujourd'hui, dans un paradoxe, c'est qu'ils sont capables d'éventer très rapidement à peu près tout et n'importe quoi, mais tout en vous donnant l'illusion que vous êtes entre vous. Et c'est plutôt, je dirais, une difficulté que certaines personnes ont à gérer l'instrument qui fait qu'ils sont perdus.
L'exposition aurait pu s'appeler aussi « La vérité est ailleurs », comme dans X-Files, Marc-Olivier Gonzette. Alors, c'est pas nouveau, on nous cache tout, on nous dit rien, la vérité est ailleurs. Sauf que, on l'a dit, les thèses du complot aujourd'hui se multiplient, en tout cas depuis 2001. Est-ce que ça marche ensemble, transparence et théorie du complot ?
Alors la théorie du complot, c'est vraiment l'argument massu pour créer toute une série de récits, parfois légitimes, parfois vraiment pataphysiques, qui entourent les réalités qu'on n'a pas encore complètement comprises, qu'elles soient historiques ou qu'elles soient situationnelles, d'une espèce de brume. Ou cette idée qu'on est des pantins manipulés en permanence par un ennemi extérieur ressort. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'une époque est plus particulièrement travaillée par cette question complotiste qu'une autre. Peut-être, on va dire, les périodes de guerre et d'affrontements majeurs entre des grands groupes, des grandes entités peuvent éventuellement conduire à cette espèce d'opacité complète, enfin complète pas du tout, puisque les espions ensuite font leur travail de sécrétion des choses et redistribuent toutes ces cartes. Donc moi je pense qu'on est finalement en train de toujours redécouvrir la même dynamique et que cette dynamique sociale elle existe depuis très longtemps dans les sociétés organisées.
Alors le secret est également en forme de manipulation. Manipulation c'est aussi parfois de la musique, Nicole Duparc. Il y a des très très beaux exemples.
Exactement. Alors on a tous entendu parler de cérémonies initiatiques qui sont bien sûr souvent, le plus souvent accompagnées de musique. On chuchote aussi de façon très insistante à propos de la flûte enchantée de Mozart, qu'elle serait apparemment truffée de signes codés, faisant référence à la franc-maçonnerie. Donc ce lien entre musique et secret, il est tout à fait intrigant et il n'a évidemment pas échappé aux fines oreilles de l'équipe du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Donc on va fermer les yeux pour mieux entendre. Vous imaginez un lieu où est installé un confortable fauteuil, équipé pour une petite cérémonie d'initiation musicale, ici commentée en live par Yann Laville. Yann Laville, une musique secrète ?
Une musique liée à différents titres au secret, donc liée à une société secrète qui s'appelle le Mbuiti, qui a été beaucoup fantasmée par les ethnologues. Ça fait partie des petits dadas de la profession. On s'intéresse à ce qui est inaccessible et effectivement l'ethnologue qui a réussi à pénétrer dans le sein des saints, à être initié, à être toléré dans les cercles restreints est réputé un peu meilleur que les autres. Donc cette société secrète a des pratiques musicales qui impliquent le secret. Donc certains des protagonistes sont masqués, ils travestissent leur identité. Et là, en l'occurrence, le secret porte jusqu'au travestissement de la voix. Parce qu'en fait, le chanteur, pour produire ces espèces de sons extrêmement étranges, boit une décoction à base de plantes inflammatoires. Donc, quelque part, il va se gonfler la gorge artificiellement pour obtenir un son musical extrêmement étrange et, en fait, qu'on ne le reconnaisse pas.
Et alors, dans un tout autre genre, Michel Sardou.
Il t'ouvrirait peut-être encore les lourdes portes d'un tombeau où le grand architecte dort ensanglanté dans son manteau. Et si tu n'es pas assez fou pour t'initier à leurs secrets, il te laisserait vivre à genoux et jamais il ne te dirait.
Et alors peut-être il nous dirait.
Il nous dirait, donc en fait, allusion claire à l'initiation, le grand architecte, il parle de maçon et de charpentier dans une strophe qu'on n'a pas entendue, qui pose un peu la question de savoir si Michel Sardou fait son coming out franc-maçon, s'il s'agit d'une plaisanterie ou s'il chante des paroles qu'il n'a pas bien comprises, ça arrive aussi. Mais en tout cas, une chanson qui alimente les théories du complot hexagonal sur un mode un peu humoristique et inattendu.
prière pour Judas.
Alors, la question est de savoir si vos auditeurs se sont tous suicidés entre-temps, puisqu'en fait, donc, on est face à cette rhétorique des messages subliminaux qui seraient cachés dans certains morceaux de musique populaire, en particulier métal. Et là, on a affaire à un cas emblématique, c'est ce groupe Judas Priest, très célèbre à l'aube des années 80, qui avait été poursuivi en justice, puisque théoriquement, en écoutant à l'envers un morceau qui s'appelle « Better by you, better than me », qu'on vient d'entendre justement jouer à l'envers, on entendrait théoriquement « do it ». Et ce serait, selon les gens qui ont attaqué le groupe, une invitation au suicide qui aurait poussé deux jeunes en 79 ou au début des années 80 à se donner la mort. Donc de nouveau, l'idée qu'on nous cache des choses, que les gens font des actes malveillants à dessein, et qu'éventuellement tout cela est lié à une forme de complot orchestré par une industrie quelconque pour des buts qui nous dépassent. Cette volonté en fait quasiment pathologique de trouver des raisons logiques à des gestes inexplicables. C'est pas pour dire qu'en fait c'est bien de se suicider, bien au contraire, mais finalement ce sont des choses qui arrivent couramment, et de chercher à pouvoir porter le blâme à un groupe de heavy metal paraît une solution assez déraisonnable a priori.
On se souvient que par exemple les Rolling Stones, eux aussi, avaient été pas mal critiqués pour ce morceau.
Alors là aussi, un morceau emblématique des années 60, réputé satanique, initiatique, puisqu'en fait Mick Jagger se présente comme Satan, il espère que la personne qui entend le morceau reconnaît de qui il s'agit, et puis en même temps complotiste, puisqu'en fait il explique qu'il était déjà là pendant la guerre de sécession, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que c'est lui qui pilotait les chars et c'est lui qui faisait exploser les obus. Donc, quelque part, une sorte de cristallisation de tous les fantasmes négatifs, sataniques, lascifs qu'on peut prêter à la musique populaire, en tout cas qu'on prêtait à la musique pop de cette époque.
À première vue, à moins d'être initié, effectivement, on perçoit mal ce qu'il y a de secret, de caché chez Rudy Vallée.
Alors c'est bien le but. Donc en fait, une chanson qui est liée au spectacle de fin d'études à l'université d'Yale, qui est devenue en fait l'hymne officieux de cette grande université américaine, et qui depuis a été fantasmé par certains aussi comme l'hymne des réseaux d'influence secrets qui se tisseraient à l'intérieur de ces sociétés d'étudiants, notamment les fameuses Skulls and Bones, dont on fait partie les pères et les fils Bush. Et donc finalement, ce serait l'hymne officieux de tous les pouvoirs occultes de l'Amérique, des lobbies militaro-industriels et du pétrole. Donc voilà comment sur une petite ritournelle a priori anodine et gentillette, on peut greffer de l'imaginaire complotiste, du secret, et voire même une action franchement occulte et mauvaise pour l'avenir de cette planète. Gentlemen songsters off on a spree,
damned from here. Rudy Vallée, qu'on écoutera d'une toute autre oreille après le décodage de Yann Laville, conservateur adjoint au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Marc-Olivier Gonzette, le secret irrigue à bas bruit toute l'histoire de la musique, la musique classique et la musique de variété.
Oui, certainement.
Une grande ritournelle du secret.
Comme l'a démontré Yann, il y a des tas d'œuvres à la fois classiques et populaires qui renferment cette thématique, puisqu'elle irrigue tout le social. Donc il est parfaitement évident que le secret va remonter à la surface également de la transmission musicale.
Mmh. On l'a dit en ouverture, cette expo autour du secret, elle fait partie d'une trilogie, donc elle vient clore cette trilogie sur le patrimoine culturel immatériel. La culture du secret, c'est un patrimoine à protéger, je sais pas, au même titre que la fondue.
Alors c'est peut-être à titre de gag, une question que nous nous sommes posées, puisque ça légitime aussi la présence de l'exposition Secret à la fin de ce cycle. Comme je vous l'ai sous-entendu, le secret finalement se porte très bien tout seul sans qu'on aille le protéger de l'extérieur. En revanche, certains types de secrets, par exemple de secrets de fabrication, de secrets de tradition, de secrets de compréhension, effectivement, ils ont tendance également à disparaître avec les gens. Par exemple, certaines cérémonies d'initiation qui avaient lieu dans les sociétés traditionnelles sont en train de disparaître parce que les gamins vont à l'école. Et c'est la même chose avec nos cultes qui remplacent d'autres cultes qui étaient basés. Donc, il y a une recomposition permanente et des secrets disparaissent, c'est sûr.
Mais on est de plus en plus conscient que le patrimoine immatériel est capital et important.
Absolument. Alors,
ça, c'est quelque chose de neuf.
Oui, c'est, en fait, l'ethnologue connaît cette problématique depuis très longtemps parce qu'en fait, un objet de musée n'a aucun intérêt s'il n'y a pas toute la connaissance qu'il y a autour de cet objet. Donc, les valeurs matérielles et les valeurs immatérielles sont étroitement connectées. En revanche, on découvre aujourd'hui dans les musées qu'il faut aussi se pencher sur cet aspect plus évanescent des sociétés dans lesquelles on est. On redécouvre la danse, les savoirs, les traditions, et puis on essaye de les mettre en scène de manière un peu différente.
Question piège, est-ce que le secret serait une forme de communication, mais à l'envers ?
Oui, c'est intéressant l'idée d'à l'envers, puisqu'effectivement... la forme, enfin la distribution du secret va bizarrement pas du tout vers le destinataire de manière immédiate et spontanée, mais prend des chemins tortueux pour finalement arriver lentement, peut-être après des années, auprès de lui. Donc je dirais, c'est peut-être pas à l'envers, mais c'est avec des circonvolutions étranges.
Le secret suinte.
Le secret suinte, le secret se partage, et puis peu à peu...
Et on le déterre.
On le déterre. Tout à fait, on peut revenir sur ces situations bien après qu'il ait été profondément enterré, comme le raconte le mythe, enfin la légende de Midas, hein, où le secret de ses oreilles d'âne a été éventé par les roseaux.
Donc faut rappeler donc l'histoire. Hein,
alors roi légendaire de l'époque de la Grèce antique qui, touchant des objets, désirait qu'ils soient tous en or, qui ensuite a participé à un concours de chant, qui a donné un prix à Apollon, qui s'est fait affubler d'oreilles d'âne parce que celui-ci, justement, n'était pas content du jugement de Midas. Et puis, finalement, son coiffeur a découvert qu'il avait des oreilles d'âne, l'a dit aux roseaux parce qu'il trouvait insupportable de le garder pour lui, et les roseaux l'ont transmis à tout vent.
Donc il faut vraiment faire attention à qui on confie son secret. Il vaut mieux l'enterrer, et, si on veut qu'il
mais
le
même
reste.
Pas.
Mais
même pas.
On n'est jamais à l'abri du secret, quoi.
C'est ça.
Le musée d'ethnographie de Neuchâtel dévoile ses secrets, c'est jusqu'au 18 octobre. Marc-Olivier Gonzette, cette chasse au trésor se conclut par un concours auquel les visiteurs espions et autres enfouisseurs de secrets sont invités à répondre. Vous pouvez nous en dire plus en 15 secondes?
Alors, ils devront associer les pictogrammes que nous leur donnons sur l'affiche au secteur qu'ils auront découvert. Et ça, c'est un travail relativement compliqué si on n'a pas vraiment extrêmement réfléchi à tous les endroits dans lesquels on était, au rapport qu'ils ont avec la thématique en général.
Et il y a un gagnant ?
Ah oui, bien sûr. Il y aura une série de prix liés au patrimoine culturel immatériel helvétique. Un week-end pour deux, un repas pour deux, une activité
un
pour
secret.
Deux, dans des lieux secrets, bien
tout
sûr.
Tout cela dévoilé en top secret. Merci à Jean-Philippe Svalen pour la réalisation. Bruno Seriba était en régie. Nicole Duparc et Nancy Psilantis vous proposaient cette émission. Et c'est Nicole Corpato, notre assistante de production. Demain, sociologie chez le coiffeur.
Espace 2.
Il est 10h.